RMC Running,
Mathéo Rollet.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast destiné à tous les passionnés de la course à pied. Épisode spécial aujourd'hui enregistré au niveau de la ligne d'arrivée de la Memo Run au cœur du bois de Vincennes. Studio délocalisé donc et invité exceptionnel. On sera dans un instant avec Marie-Josée Pérec, que l'on ne présente plus, mais bon, un petit peu quand même, triple championne olympique sur 200 et 400 mètres tout de même, il faut le rappeler, et engagée aussi pour le sport santé. On sera aussi avec Benoît Durand, directeur général de l'association France Alzheimer, pour parler de cette Memo Run, course caritative contre la maladie d'Alzheimer. Et on va se demander aussi à quel point la course à pied a des bienfaits sur notre cerveau. Enfin, RMC Running aura le plaisir d'accueillir son lot de championnes, Sarah Ouramoun, Salomé Brun, Thaïs Nocel-Jardel. Bref, magnifique plateau. Expérience, sport santé, mondiaux d'athlètes, c'est parti, on va parler course à pied dans sa globalité.
RMC Running.
Bon, Marie-Jo, je vais directement venir vers toi, c'est un petit peu obligatoire pour que tu m'expliques un petit peu ta présence ici, une course Memo Run caritative. Tu es engagée auprès de France Alzheimer aussi depuis bon nombre d'années. Explique-moi un petit peu cet engagement, pourquoi c'est important pour toi d'être engagée pour cette cause.
Alors bonjour à tous, alors pour moi c'est vraiment important d'être là aujourd'hui parce que je pense que c'est la maladie de l'Alzheimer, j'ai du mal à dire ce mot, en fait ça nous touche quasiment tous, on a tous quelqu'un autour de nous en fait qui est atteint de cette maladie. Moi pour ma part... moi, j'ai des proches en fait qui souffrent de cette maladie et je vois combien c'est difficile. Alors déjà pour le malade, mais aussi en fait pour les personnes qui accompagnent, donc les aidants. C'est très très difficile d'avoir des proches qui sont atteints de cette maladie. En fait, de voir le fait qu'on ait des proches qui ne nous reconnaissent pas, c'est très très douloureux. Ce sont des gens qui ont du mal à en parler au début. Bien souvent, les gens ils essayent de cacher la maladie. Donc en fait, il faut vraiment faire très attention lorsqu'on se rend compte que nos proches ont un petit trou de mémoire ou qu'ils oublient les clés ou que... Et donc pour moi c'était tout à fait normal de soutenir cette cause. Alors nous on travaille avec Benoît depuis pas mal d'années. On est aussi il y a les Étoiles du Sport qui est aussi très engagé avec l'association. Et on essaye de faire venir les sportifs, de leur dire que c'est important en fait de faire venir les gens sur ces courses. Comme vous pouvez le constater sur le village, par exemple, on a quelques activités. En fait, c'est très important pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie de faire une activité physique. Alors là, quelquefois, on propose du tennis de table, on propose du tennis tout court. En fait, les gens, on se rend compte que lorsqu'ils pratiquent,
ils sont stimulés.
Ouais, c'est ça. En fait, on voit qu'ils sont mieux dans leur tête, ils sont mieux dans leur corps. Et puis il y a moins d'agressivité parce que souvent les malades sont assez agressives vis-à-vis des aidants. Donc voilà, pour moi c'est normal d'être là et d'encourager les gens, de discuter avec eux, de partager avec eux. Je pense que ça nous fait tous du bien. Donc c'est une très belle initiative, la Memo Run.
Benoît, j'ai envie de venir vers toi aussi parce que cette maladie d'Alzheimer, finalement, elle est très connue, c'est peut-être l'une des maladies les plus connues. Et pourtant, c'est aussi la moins connue parce qu'aujourd'hui, il n'existe toujours pas de remède pour soigner cette maladie. En quoi la pratique de la course à pied va aider à stimuler le cerveau, comme disait Marie-Jo à l'instant? Pourquoi avoir choisi la course à pied pour lutter contre cette maladie?
Alors en fait, il y a deux choses. La course à pied, c'est un prétexte. En fait, on voulait vraiment mettre en avant que l'activité physique, Dans l'activité physique, c'est un des facteurs de risque. Il y en a 14 facteurs de risque qui peuvent entraîner, en fait, l'inactivité physique peuvent entraîner en fait des troubles cognitifs. Alors, c'est pas forcément dû après du Alzheimer, mais qui peuvent entraîner des troubles cognitifs. L'idée de la MemoRun, c'est aussi en fait avoir au niveau du public l'intergénérationnalité et dire que le sport, quel qu'il soit, et le running en fait partie, a des bienfaits. On est OK là-dessus. Et du coup, sur un week-end, on fait un village, effectivement, donc le village où on va avoir des stands d'explications sur la maladie. Mais comme l'a dit Marie-Jo, on va aussi montrer, parce qu'en fait, on a des ateliers à travers nos 102 associations départementales, en métropole et en Outre-mer, qui font en fait à la fois du tennis de table, du tennis santé. Et on voit les bienfaits. On est en train de mettre un protocole pour prouver scientifiquement tous les bienfaits que ça peut avoir, à la fois sur les troubles cognitifs et les troubles moteurs. Donc c'est hyper important, le sport en général. Et ensuite, c'est un moyen aussi de parler de la maladie, parce que comme tu viens de le dire, en fait, à la fois elle est connue et pas connue. Elle est plutôt stigmatisée, la maladie. On la connaît pas, mais on va en parler. On peut même la dénigrer en disant oui, bah, c'est normal, il a perdu la mémoire, etc. Alors qu'effectivement, il y a des impacts quand même assez importants.
Parfois, sur les malades et les aidants.
Sur les malades et les aidants. Et en fait, c'est une maladie qui isole. Et le sport aussi, c'est pour recréer du lien social. Là aussi, c'est encore un des facteurs de risque, l'isolement social. Et tout ça, tous ces ateliers, c'est faire venir les gens et leur faire comprendre en fait tout l'impact que ça peut avoir en fait à la fois cette maladie sur les aidants, sur l'entourage.
La course à pied, on est bien d'accord, c'est pas ça qui va soigner la maladie d'Alzheimer, non. Mais ça peut aider à repousser un petit peu l'échéance de faire fonctionner le cerveau finalement. Donc c'est là aussi où ça joue.
Ouais, c'est ça. Alors effectivement, malheureusement, il n'y a pas de traitement curatif. Là, il y a un médicament qui vient de sortir et qui ralentit le déclin cognitif. Mais quelle que soit l'activité physique en fait partie, alors que ce soit le running ou la marche, c'est pour ça aussi que dans le week-end, on propose aussi des marches. Et on a vu qu'hier, à la marche, où il y avait 400 personnes, dans cette marche, il y avait des personnes malades. Et en fait, voilà, c'est aussi pour montrer le bienfait de l'activité physique. Et le running, c'est presque pour dire, en fait, aux générations, qui peuvent être impactées à la fois par leurs grands-parents, parce qu'on va dire, il y a quand même une moyenne d'âge assez jeune, de se dire, ouais, il y a des trucs à faire. Oui, en fait, je vais en parler plus. Oui, je vais mettre des choses en place. Oui, peut-être que je vais me rapprocher de France Alzheimer, qui est la seule association qui accompagne au quotidien les personnes impactées par la maladie. Donc, en fait, tout ça, c'est mis en place pour ça, quoi. Et le running, évidemment, après, c'est super. Ceux qui sont capables de le faire, c'est super. Après, malheureusement, il y a des personnes malades ou des aidants qui ne sont pas capables de le faire, mais c'est pas grave. En fait, c'est leur dire que, ouais, venez avec nous, recréer du lien social. Si vous ne pouvez pas courir, marcher, mais en tout cas, c'est forcément du bienfait. Et vous avez aussi d'autres activités physiques.
Ça, Marie-Jo, est-ce que c'est inspirant pour toi de voir qu'il peut y avoir des malades qui pratiquent, comme ce week-end, la course à pied, la marche? Parce qu'on parle souvent de sport santé, et j'ai l'impression quand même que le running, la marche, c'est aussi peut-être le plus gros représentant du sport santé, parce que finalement, une paire de baskets et on part, quoi. C'est assez simple. C'est inspirant pour toi, Marie-Jo?
Alors, c'est vrai que le running, ça facilite le fait que les gens puissent faire quelque chose, parce que comme tu le dis, il suffit d'avoir une paire de baskets et puis de venir sur des des événements comme ceux-là. Alors il y a aussi beaucoup de gens qui font ça seuls dans leur coin, mais je trouve que c'est bien de se retrouver, d'être avec les autres. Je pense que c'est plus inspirant. Lorsqu'on vient sur un village comme celui-là, le fait de partager avec les autres, on apprend beaucoup, on prend beaucoup d'énergie aussi. On repart avec de l'énergie, on repart avec des sourires, et donc on peut, on vient souffler un peu, en tout cas pour les aidants. Sincèrement, ce sont des lieux qui sont importants. C'est très humain, voilà. Je sais pas comment expliquer ça, mais En tout cas, on a besoin d'avoir ce type de manifestation. Voilà.
Et ça, ce fameux sport santé, tu l'as un petit peu découvert en après-carrière, parce qu'au début, on fait du haut niveau, on essaye de dépasser les chronos, mais il n'y a pas que ça dans le sport. Il y a aussi une grande majorité qui fait du sport tout simplement pour se faire plaisir, se faire du bien. Ça, c'est quelque chose que tu as découvert après le haut niveau qui te fait du bien à toi aussi.
C'est vrai que nous, il y a une quinzaine d'années, on avait justement lancé des manifestations comme celle-là, comme Big Wiz, comme... on était quasiment les premiers en fait à se lancer là-dessus parce qu'on pense et c'est pas parce qu'on a fait du haut niveau, on pense que réellement le sport c'est un médicament et l'activité en fait pour ceux qui quand ils entendent le mot sport ont peur, donc on leur parle d'activité physique, ce sont des choses nous, dès le départ, on s'est dit, mais lorsqu'un sportif parle aux gens, les gens sont beaucoup plus attentifs. Donc, en fait, on peut attirer, rassembler les gens. Et je pense que quelque part, c'est notre devoir, d'avoir ce type de comportement. Envers des gens qui nous ont portés, qui nous ont accompagnés, qui nous aiment. Moi, je pense que c'est la meilleure manière en fait de renvoyer quelque chose de bien aux gens. Voilà.
Parfois, les gens peuvent avoir peur aussi de se lancer. Bon, on est RMC Running, on va effectivement parler de running avec toi, Marie-Jo. Quels seraient tes conseils pour nos auditeurs pour commencer le running ou pourquoi pas poursuivre l'aventure du running ?
Et moi, je pense que c'est bien, comme je le dis, de ne pas démarrer seul, d'être accompagné, donc de venir sur... en fait, sur des événements comme la Memorun, de s'inscrire aussi dans un club. Je pense que c'est important d'être avec les autres et puis d'être conseillé lorsqu'on démarre et qu'on ne sait pas. Je pense que c'est important. Pour moi, le running, c'est se vider la tête, c'est se faire du bien, c'est... c'est le partage. Pour moi, c'est tout ça. Donc, et puis ça reste le meilleur médicament, surtout.
Surtout ouais. Dans les maladies d'Alzheimer, il y a des médicaments pour freiner, on disait, mais il n'y a pas de médicaments pour soigner. Donc, comme le dit Marie-Jo, effectivement, la pratique sportive et notamment du running, oui, c'est un médicament. Ça aide aujourd'hui à repousser quelque part une échéance certaine.
Ouais, je voulais juste faire une parenthèse, elle est quand même super notre marraine, elle est top. N'importe comment, en fait, on sait, qu'on soit malade ou pas, le sport, ça vide la tête et ça fait du bien. Voilà, point, ça c'est déjà, je trouve, le postulat de départ. Après oui, ce que vient de dire Marie-Jo, c'est se retrouver ensemble, c'est lutter contre l'isolement social, c'est évidemment en fait après le sport en général et le running ça fait du bien, je peux pas forcément dire autre chose, c'est plutôt positif. Et effectivement, si on a, alors des fois même moi à titre perso je vais avoir des appréhensions à courir, ça fait longtemps que j'ai pas couru, je fume un peu, etc, mais je vois en fait là ce matin au départ du 10 km je sais même pas quel temps j'aurais pu faire, hein, mais j'avais envie de courir. Parce qu'en fait, y a un phénomène de groupe, il y a une émulsion et c'est top, quoi. Et franchement, et j'ai dit, j'avais envie de courir.
Et pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ? Alors,
c'est
du coup,
mon jour.
Donc l'année prochaine, je sais pas si je ferai le 10, mais je ferai le 5. Ouais, je courrai l'année prochaine.
C'est dit. En direct c'est sur RMC Running, Benoît Durand l'année prochaine va courir la Memorun. Non, mais plus généralement, on parlait de running, Marie-Jo, je suis obligé de venir vers toi là-dessus. Il y a quand même une actualité au niveau du running. Là, on part sur tout autre chose, du haut niveau. Mais ces mondiaux d'athlètes, ils finissent aujourd'hui. Je suis obligée de t'en parler, Marie-Jo. Voilà. Donc, comment est-ce que toi, tu vois ce bilan pour le moment des mondiaux d'athlètes ?
C'est vrai que cette année, on a une très très belle médaille d'or. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude sur les championnats du monde ou les JO en fait d'avoir ce type de médaille. La médaille de Jimmy, c'est la neuvième. Ça n'est que la neuvième médaille d'or dans l'histoire de l'athlétisme. Donc, c'est pas beaucoup puisque les mondes existent depuis 1983. C'est une très, très belle perf parce que Jimmy, il arrive au championnat du monde. Je crois qu'il a la 11e perf, je crois. Et quand on entend son coach dire juste avant le début des championnats que s'il fait 5e, ils seront heureux. Donc vous imaginez l'exploit qu'il a.
C'est pas monumental.
Qu'il a réalisé. Enfin, cette dernière ligne droite, elle est juste incroyable. Enfin, c'est vraiment magnifique. Moi, je vais dire, ça faisait un moment que j'avais pas vibré comme ça derrière ma télé. Donc, bravo Jimmy. Et puis notre équipe de France, je trouve que elle se comporte quand même assez bien. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pointé le bout de leur nez. Je crois qu'on a au niveau des finalistes, je pense qu'on a battu le record de finalistes sur ce championnat. Donc c'est une très belle équipe de France. Alors tout à l'heure, vers midi 47 ou 45, on attend la finale du 5. Il y a trois Français en finale. Donc on espère encore vibrer, mais même si on n'avait pas de médaille, moi je pense que c'est déjà un championnat qui est vraiment à la hauteur. Voilà,
oui, parce que dans les médias, finalement, on parle souvent de bilan comptable au niveau du tableau des médailles, etc. On a quand même l'impression de voir une équipe de France jeune et sans complexe qui se cherche un petit peu dans les grands championnats, ouais, qui mise sur l'avenir en fait. Est-ce que tu as ce ressenti-là, ouais, aussi, Marjo?
Bien sûr, franchement, je pense que on n'a jamais eu autant de densité, hein, en fait, au niveau des jeunes. Ils sont vraiment très très bons. Ils sont ils sont bien accompagnés. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et donc, ben, il faut continuer à les accompagner, à les encadrer pour vivre les émotions que tous ces sports nous procurent, voilà.
Et bon, bah elle n'est pas française, mais je suis obligé de t'en parler aussi. Il y a eu un 400 mètres un petit peu d'anthologie, la deuxième meilleure chrono de l'histoire du 400. Ça aussi, ça t'a procuré pas mal d'émotions avec Sydney McLaughlin.
Ben, Sydney, elle est juste incroyable. En fait, il n'y a pas qu'elle, hein, puisqu'il y a Paulino aussi. Elles sont descendues sous la barrière des 48. Donc, en fait, elles sont en train de révolutionner cette discipline qui n'avait pas progressé, hein, depuis une trentaine d'années. Donc moi, ça me fait plaisir parce que je me disais toujours, mais qu'est-ce qu'elles font? Toutes les disciplines progressent, et c'est vrai que cette discipline, elle stagnait quand même pas mal. Enfin, moi, j'ai dû attendre l'année dernière pour voir mon record d'Atlanta tombé par Paulino. Donc ça fait plaisir de voir que nos sports progressent, et que il y a plus d'athlètes féminines qui font parler d'elles au niveau mondial. C'est important pour le sport féminin d'avoir de grandes figures comme cela, voilà.
Surtout dans des conditions comme on l'a vu sur cette finale, on sent que le record du monde peut tomber, mais en fait, t'avais déjà tout vu avant tout le monde, hein. Moi, j'ai cru comprendre que déjà quand Sydney était sur 400 haies, tu disais, mais il faut qu'elle passe sur 400 plats, c'est pas possible.
Ça fait un moment que j'espérais qu'elle le fasse, parce qu'avec ce qu'elle réalisait sur 400 haies, on pouvait imaginer ce qu'elle pouvait faire, et c'est vraiment super qu'elle ait changé d'avis et qu'elle soit venue sur le 400 plats, parce qu'elle fait vraiment du bien à cette discipline et aussi à l'athlétisme, parce que on a besoin d'avoir de grandes figures féminines pour faire venir les jeunes à pratiquer ce sport qui n'est pas un sport facile, et donc qui fait de moins en moins rêver les jeunes, parce que on a le sentiment qu'aujourd'hui tout le monde a envie de faire un sport fun qui fait pas mal, qui est voilà quoi. Donc on a besoin de femmes comme ces femmes-là pour donner envie, voilà.
Bon, en tout cas, je pense qu'on a parlé de haut niveau et de sport santé. On a plutôt fait le tour du sujet. On verra, on n'est pas encore fixé sur le bilan des mondiaux d'athlètes. Il reste encore quelques compétitions à l'heure.
Il y a les relais aussi, on ne sait pas. Hein.
Voilà,
quand on va voir ce qui s'est passé, qui sait, peut-être qu'on aura une petite médaille.
Peut-être, on verra. On ne sait pas encore, en tout cas, à l'heure où on l'enregistre, ce podcast. Merci infiniment, Marie-Jo, d'être venue sur le plateau d'RMC Running. Merci aussi à toi, Benoît, d'être venu.
Merci.
Voilà, n'hésitez pas, si jamais vous voulez faire un don, ça se passe sur www.francealzheimer.org voilà, pour soutenir la cause. Et puis, Marie-Jo, on te revoit bientôt sur RMC Running, évidemment.
À bientôt, merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci en tout cas à Marie-Jo Pérec et Benoît Durand d'avoir été avec nous. Et on enchaîne, hein, parce que ici le lot de champions finalement ne s'arrête pas. On est avec Sarah Ouramoun et Francky Denis sur ce podcast. Et puis avec Thaïs Nocel-Jardel aussi, qui est vice-championne d'Europe des U20 pardon, par équipe en 2024. Je vais d'abord me tourner vers toi, Sarah, qui finalement vice-championne olympique de boxe. Tu es passée par la Fédé de boxe aussi. Tu es passée par le comité olympique. Tu es passée par l'organisation de Paris 2024. Finalement, tu as toutes les casquettes et tu t'arrêtes jamais, quoi. Comment ça va, Sarah ?
Ça va très bien. C'est vrai que j'ai eu plusieurs casquettes après celle de boxeuse. Ça a été passionnant. J'avais envie de découvrir un peu l'envers du décor. Et j'ai beaucoup appris des différents mandats que j'ai pu occuper.
Et aujourd'hui, tu es aussi coureuse, hein, tu as couru ce 10 km de la Mémorraine. Comment ça s'est passé pour toi ?
Super, enfin, beau parcours, belle ambiance. Non, j'ai pris beaucoup de plaisir à courir ce matin.
Alors, raconte-nous un petit peu de la course à pied, de la boxe à la course à pied plutôt, dans ce sens-là. Il n'y a qu'un pas peut-être ? Est-ce que tu courais déjà avant ? Est-ce que tu apprécies courir ? Comment ça se passe pour toi là-dessus ?
Alors, j'ai toujours apprécié courir, mais surtout, la course fait partie de l'entraînement du boxeur. Hein. On court beaucoup. Alors, pas sur des longues distances, hein, on est beaucoup sur des fractionnés, mais voilà, c'est un outil qui est vraiment utilisé pour pouvoir travailler toute sa préparation physique et être prêt. Mais on l'utilise aussi pour la perte de poids, parce que c'est un grand sujet, hein, le poids chez les boxeurs et les boxeuses. Donc j'ai beaucoup couru pour perdre du poids.
On a cette image où il y a des boxeurs qui courent lestés, en fait, avec une transpiration max pour perdre un max de
exactement,
poids.
Exactement, Kawes, Sudizette, voilà, j'en ai passé des heures à courir pour maigrir. Hein.
Voilà, c'est un peu plus facile, il n'y a pas de poids aujourd'hui, tu cours un peu plus librement.
Il y a beaucoup plus de plaisir. Et pour te dire, pendant des années, je courais en rêvant un jour de courir en t-shirt et en short. Très souvent, j'ai eu cette envie-là quand je courais, parce que l'objectif, c'était vraiment de transpirer. Et là, aujourd'hui, j'arrive à trouver du plaisir juste à courir, à avoir des vraies sensations et à me dire j'ai juste envie d'avancer, de me dépasser et pas seulement de transpirer.
Ouais, c'est une toute autre course à pied finalement. Francky, je me tourne vers toi, tu es coach de boxe, tu as une salle de boxe aussi.
Oui.
Est-ce que, on a un peu cette image du boxeur un peu à la Rocky qui court sans s'arrêter à fond sans vraiment but précis finalement, mais on est d'accord, c'est tout autre chose la course à pied, c'est vraiment intégré dans une prépa de boxe pour un combat.
C'est ça. Moi, j'ai depuis mon plus jeune âge, quand j'ai commencé la boxe, je courais et j'ai toujours couru. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait aussi aimer ce sport. Pour moi, la course à pied, c'est vraiment le socle de tout sport.
C'est
vrai.
C'est là où on fait la caisse. Ouais.
Exactement. Pour travailler le fond, tout ça, il n'y a pas mieux. Et puis, ça travaille vraiment tout le corps. Et c'est des choses que j'essaye de transmettre un peu à la nouvelle génération, on va dire. Alors, ils veulent faire pareil que tous les boxeurs qui peuvent voir dans les films, ça, sauf courir. C'est vrai, ils ont du mal, mais c'est vrai que moi je m'occupe de pas mal de sections dans la salle, je coach. Ça va des enfants de 10 ans jusqu'aux adultes de 30, 35 ans pour les compétiteurs. Et c'est vrai que j'essaie de leur enseigner ça, leur transmettre ça dès le plus jeune âge pour que ce soit pas que justement qu'une activité pour perdre du poids ou autre, que ce soit vraiment que ça fasse vraiment partie de leur préparation, parce que je pense que c'est important. Et puis comme en plus de ça, nous on fait un sport où on est toujours enfermé, le fait de courir aussi, c'est aussi,
hein.
Voilà,
bien sûr,
tu prends l'air, tu vois autre chose, tu t'aères l'esprit. Et puis je trouve que pour retrouver un peu d'inspiration, tout ça, ça fait du bien. Donc c'est ce que j'essaie de leur transmettre, un peu la course plaisir. Et puis des fois le lundi chez nous c'est piste. Donc c'est autre chose, parce que c'est vrai que je leur demande de
courir
de courir vite, en tout cas de donner le meilleur d'eux-mêmes.
c'est pas toujours évident, mais petit à petit ça prend forme. Et bah aujourd'hui encore, j'ai amené un boxeur qui a du mal à justement intégrer ça dans sa préparation. Et du coup, je me sers de ce genre d'événement. Là, ça avait en plus tout son sens avec la cause de la course. Donc, je l'ai pris avec moi. Je l'ai tiré un petit peu. Mais il a fait ses 10 km et on en refait un dans un peu moins d'un mois. Un peu plus d'un mois, pardon. Même 2 mois, le 11 novembre. Donc, on verra si d'ici là, il a continué à courir et s'il améliore son temps. Donc
ouais, parce que souvent, en plus, en boxe, on dit que aller courir un 400 mètres à bloc, bon, ça va, mais courir un peu plus de distance sur un 10 km, ça commence à être long pour un boxeur, hein, on est d'accord?
Exactement, ouais. Surtout que lui, c'est pas un petit poids. Donc, donc c'est pas toujours évident.
C'est pas le poids léger.
Voilà, c'est ça.
Donc, et c'est pas trop compliqué, ça aussi, Sarah, de passer de cette étape à les tâches un petit peu ingrates. Ensuite, bon, je le fais parce qu'il faut le faire et j'ai un combat préparé. Et ensuite, enfin, amener vers le plaisir, c'est un peu cette dérive-là qu'on essaye d'atteindre en boxe.
Bah en fait, quand tu es compétiteur en boxe, tu acceptes de courir parce que tu sais que ça va te servir et parce que tu sais que c'est ce qui peut faire la différence sur le ring. Si tu as le physique et la caisse, c'est ce qui va, les moments dans le combat où tu sens que c'est un peu dur, c'est ce qui va te permettre de passer au-delà. Aujourd'hui, je trouve que la difficulté, c'est de plus avoir d'objectif. En fait, quand tu as été compétiteur pendant des années et que là, tu cours sans vraiment d'objectif, c'est toujours difficile. Et moi, l'objectif aujourd'hui, c'est à la fois le plaisir. Et puis, j'essaye quand même de me fixer des objectifs de temps. Mais en me disant, bon, il faut accepter que la carrière est loin. Et donc, la performance, elle ne peut pas être celle qui était il y a 10 ans. C'est juste se dépasser et accepter que on évolue, on vieillit aussi. Le corps vieillit. Et donc, voilà, ouais. Les objectifs sont différents. Et puis, le plaisir, je le trouve aussi dans le partage et dans le sens. Aujourd'hui, quand on court comme ça pour des causes. Moi, j'ai sur le long du parcours, j'ai beaucoup pensé à notamment aux familles et aux aidants qui portent, parce que voilà, je suis aussi dans cette situation-là. Et là, il y a une motivation supplémentaire. Donc voilà.
Oui, c'est parce qu'il faut le rappeler, c'est une course caritative contre la maladie d'Alzheimer. C'est important aussi de lier course à pied et course caritative et bonne opération finalement. C'est important aussi pour toi d'être là aujourd'hui, Sarah.
Ça permet en tout cas de sensibiliser, de récolter des fonds aussi pour la recherche. Donc c'est une manière d'allier à la fois le plaisir et en même temps l'utilité sociale. Donc c'est important, ouais.
Thaïs, je me tourne vers toi aussi. La course à pied, bon, toi, tu es épéiste, vice-championne d'Europe par équipe en 2024. Tu me disais un petit peu en off que la course à pied, c'est quand même intégré dans une prépa physique avant la saison d'épée, c'est ça?
Oui, voilà, tout à fait. En fait, moi, en général, je cours l'été pour me remettre en forme. Et puis, c'est aussi du plaisir, parce que comme on a pu le dire, on n'a pas beaucoup de temps pendant l'année. Après, ça me permet aussi, je trouve, d'avoir un peu un moment de défouloir. Où justement, comme la saison elle est très longue, il y a le stress qui est vachement présent. On essaye de... pendant que je cours, c'est vraiment un moment où je pense à rien. J'essaie de mettre mon cerveau sur le côté. Et juste, c'est moi, ma musique et le moment présent. Donc ça permet aussi de faire du sport sans se mettre la pression d'objectifs et d'arrière-pensée pour un objectif. Donc c'est vraiment... ça, je trouve ça vraiment bien. Et donc là, c'était plus aussi pour courir avec mes copains. Donc là, avec le smile, histoire de reprendre la saison un peu sur le bon pied, quoi.
Ouais, parce qu'on en parlait avec Sarah et Francky, plutôt la boxe est tournée vers le fractionné au début pour essayer d'avoir cette complémentarité. Qu'est-ce qu'on fait quand on court, quand on fait de l'épée? Pourquoi on va faire telle séance et pas une autre, par exemple?
Alors, c'est vrai qu'en escrime, ce qui est vachement important aussi, c'est le fractionné. Ce qui est difficile, c'est qu'on peut avoir des matchs, on peut commencer à 7h du matin et finir des fois à 20h, 21h, avec des moments de pause de 2-3h, ou des fois même ça peut arriver d'avoir des 4h de pause. Donc c'est de se remettre dedans, et c'est des moments très, très intensifs pendant des courtes périodes, courtes durées, donc c'est vraiment des fractionnés qui peuvent être utiles aussi à notre sport. Après... des courses d'endurance, ça peut toujours aider pour...
faire la caisse, finalement.
Voilà, exactement.
C'est un peu un lien entre... Bon, là, ici, on a la boxe, on a l'escrime. Mais finalement, hein, c'est un lien entre tous les sports, avoir la caisse déjà, avant voilà. de commencer le spécifique, on est d'accord. Avant la boxe, est-ce que vous faites par exemple un bloc de course à pied vraiment spécifique ou c'est plutôt intégré dans une semaine d'entraînement classique?
Alors, le lundi, donc, du coup, quand on est sur piste, on est plutôt sur du fractionné. Mm-hmm. Voilà. Et ensuite, moi, je leur demande de faire un footing qu'on appelle long. Ça va être 45 minutes, une heure maximum. Après, ils peuvent aller plus loin s'ils le souhaitent. À partir du moment où ça, ils n'ont pas de problème au niveau des articulations ou autre, c'est pas un problème. Le footing long, il est fait, comme je le disais tout à l'heure, pour effectivement développer son endurance. Et puis, mais aussi, encore une fois, s'aérer l'esprit et prendre du plaisir et pas être dans voilà, une sorte de lâcher prise un petit peu. Parce que nous, c'est vrai qu'en séance, on est sans arrêt monte tes mains, fessi, enfin, on est toujours sur de la directive. Et du coup, le fait d'aller courir seul ou même accompagné, ou alors, comme tu disais, Thaïs, avec ta musique dans les oreilles, ça permet de vraiment s'aérer l'esprit et de penser à autre chose. Entre la boxe, la semaine, plus les cours ou alors le travail, c'est vrai que si on est. Si je leur demande encore plus de faire un footing avec un temps vraiment à respecter et une allure ou autre, ça, ouais. Je pense qu'ils auraient moins de motivation à y aller. Donc c'est vraiment
ouais. Voilà, un peu plus libéré, ouais, c'est ça.
C'est ça, lâcher prise.
Et Thaïs, toi aussi, tu rejoins un petit peu la boxe dans ce côté-là, parce que oui, on a besoin du haut du corps en escrime, on a aussi beaucoup besoin des jambes. Est-ce que ça aide aussi la course à pied à se développer musculairement? Est-ce qu'on touche les mêmes muscles globalement?
Bien sûr, je pense que oui, ça aide. On utilise vachement le bas du corps. Peut-être même, je dirais, un peu plus le bas du corps, où il y a vachement un jeu de rythme de jambes, laisser tomber dans le vide, ce qu'on appelle, pour justement pas se faire toucher puis repartir direct. Et donc, ça demande de l'explosivité. Et donc, tout ça, c'est des muscles qui sont travaillés dans la course.
Sarah, toi, aujourd'hui, la course à pied t'aide aussi à avoir trouvé... une autre discipline, d'autres objectifs et comme tu disais, te faire plaisir. Comment est-ce qu'on arrive à se faire plaisir sur un 10 km où voilà, quand on court à fond, le 10 km c'est quand même une course qui est particulièrement dure.
Le plaisir, il est dans la fierté de se dépasser, dans la fierté d'atteindre ses objectifs. Moi aujourd'hui je suis presque en mode reconstruction parce que je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. C'est une blessure que j'avais le tendon bien abîmé depuis des années, et en fait cette rupture ça m'a beaucoup freinée, donc je suis voilà, en train de me reconstruire. Et la course, les objectifs de temps, de sensations, c'est aussi ce qui me permet de retrouver un peu de force, de plaisir. J'ai l'impression d'avoir tout perdu, et donc le fait de me dire je remets des baskets et je sors courir, et là je le fais seule, et il y a quelque chose de l'ordre de la préparation mentale aussi, en me disant voilà, c'est à moi de trouver en moi les ressources pour me dépasser, me reconstruire, retrouver l'envie, et puis continuer à bouger, parce que finalement le bouger c'est la vie, le mouvement c'est la vie. Donc je le prends vraiment comme une manière de reprendre le pouvoir, quoi.
Bon, on a parlé complément de sport avec la course à pied. Merci en tout cas, Sarah Ouamoun, Francky Denis et Thaïs Neucel-Jardel, d'être venus pour en parler. Cette fois, on va passer carrément de l'autre côté et parler finalement de course à pied pure haut niveau avec des athlètes de très haut niveau, vous allez le voir, qui visent notamment Los Angeles 2028. Merci à tous les trois en tout cas.
Merci.
Merci.
Bon, on a eu les conseils de Marie-Jo pour parler course à pied. On a ensuite parlé un petit peu de compléments de course à pied en vis-à-vis des autres sports. Cette fois, on va parler course à pied de haut niveau avec Salomé Brun et Clément Leduc qui sont venus nous rejoindre sur le plateau d'RMC Running. Comment ça va déjà? Vous avez couru un petit peu le 10 km, ça a été, Salomé?
Ouais, franchement, c'était super bien.
Ouais.
Et je ne m'attendais pas à ça, il y avait une bonne ambiance et puis il faisait bon.
Ouais.
Tout allait bien, c'est cool.
Et puis c'est une course pour la bonne cause, Clément, ça a été pour toi aussi?
Oui, ça fait toujours plaisir de courir pour la bonne cause. Et très beau parcours dans ce magnifique bois de Vincennes. Et une très bonne ambiance, donc que du bonheur.
Bon, j'ai envie de vous planter un petit peu le décor quand même, parce que Salomé Brun, ça vaut 2h30 sur marathon, en tout cas pour l'instant, parce que vous allez à Valence dans pas longtemps. Clément Leduc, 1h04 sur semi, 2h12, c'est ça, sur marathon aussi?
C'est ça.
Voilà, c'est juste pour planter un petit peu le décor dit au niveau. Salomé, j'ai envie de démarrer avec toi, avec cette phrase que tu as déjà sortie, où tu parlais un petit peu de tes ambitions et de tes rêves surtout, et tu parlais d'un rêve de porter le maillot de l'équipe de France et de courir jusqu'à tes 80 ans. Alors pourquoi cette phrase?
Non, franchement, je trouve qu'on a de la chance de faire la course à pied. C'est un sport assez accessible. Peu importe, quand je dis jusqu'à 80 ans, franchement...
Au plus,
pourquoi pas. Mais je trouve que c'est un sport qui anime. Je trouve que tout âge, peu importe notre niveau... Et je trouve ça important et j'espère courir le plus longtemps possible.
Bon, en toute objectivité, c'est le plus beau sport du monde, la course à pied.
Oui.
Je sais pas, je sens que t'as un petit peu le cœur dans les yeux quand tu en parles. Ouais. C'est quelque chose qui t'anime, c'est vraiment ton quotidien, la course à pied.
Franchement, oui. Je vis quand je cours, je suis heureuse. Et non, c'est vraiment... Si tout le monde peut courir, même si c'est 30 minutes... Allez-y, c'est facile, c'est un sport qui est facile. Il suffit juste d'avoir du basket et d'aller courir. Non, c'est trop bien.
Clément, c'est pareil pour toi. Quand on fait du running, encore plus à haut niveau, on se lève running, on mange running, on dort running. En fait, c'est tout le temps de la course à pied, quoi.
Ouais, exactement. En fait, pour pouvoir progresser et récupérer des entraînements, il faut bien optimiser le sommeil et l'alimentation. Donc, tout ce qu'on fait au quotidien, c'est pour pouvoir être en forme, pour bien s'entraîner. Et courir permet d'être en forme. Donc, c'est un cercle vertueux. Et donc, c'est génial.
C'est génial, bien sûr. Et au beau milieu de la fanfare ici à Vincennes, on va parler un petit peu de votre actu, parce qu'il y a un petit marathon qui se profile pour vous deux. Marathon de Valence, du coup. Quels seront vos objectifs, Salomé, déjà pour toi? Ça sera quoi alors?
J'aimerais bien aller chercher un chrono sous les 2h30.
Ton record personnel,
je travaille pour ça.
Ouais. Et c'est de 2h30, tu as un chrono précis en tête déjà, ou c'est vraiment seul 2h30 déjà?
J'ai un chrono précis, mais
on
déjà...
En parle pas, hein.
Déjà aller chercher sous les 2h30, ce serait super chouette.
Clément, toi, tu viseras quoi? Parce que vous allez courir tous les deux, du coup, là-bas. Hein,
oui, c'est ça, on court tous les deux. Et moi, j'aimerais bien faire moins de 2h10.
Vous ne positionnez pas trop, hein, quand même. Hein. Normalement, quand on est à ce niveau-là, il y a un chrono précis en tête. Ça se joue à la seconde, même.
Oui, on a un chrono précis, mais on a un chrono en tête actuellement et on va l'affiner au fur et à mesure de la préparation. Et vu qu'on est encore à 2 mois et demi de la course, ça ne sert à rien de donner un chrono précis.
Oui, il ne faut pas se porter l'âge koumoun, on va dire.
Exactement.
Non, mais je parlais de Valence parce que c'est une étape importante pour vous, ce marathon de Valence. Oui, il y a cet objectif de faire un très beau chrono à Valence, mais il y a surtout un objectif plus lointain, c'est de viser les JO de Los Angeles 2028. À quel point cette course de Valence est importante dans la construction de ce projet, Salomé?
En fait, cette course, ça va me permettre déjà de m'approcher des meilleures françaises et aller chercher justement, en fait, c'est une grosse étape qui va me permettre de voir de ce que je suis capable, à quel point j'ai de la marge de progression.
J'ai envie de te prouver quelque chose à Valence, te prouver que finalement tu fais partie des meilleures athlètes françaises sur marathon.
Oui.
Ça, c'est vraiment l'objectif principal.
Oui.
Est-ce que en passant la ligne, par exemple, quand tu as fait 2h30 à Valence, c'était l'an dernier, je crois, hein, c'est ça?
Oui.
Voilà. Est-ce qu'il y a un sentiment de fierté de dire waouh, ok, j'ai fait une prépa qui était dure, qui était longue, mais là c'est fait, j'ai vraiment atteint un objectif que je pensais presque pas réalisable avant d'entamer la prépa, quoi.
Honnêtement, non, parce que tout le monde m'a parlé de la fameuse, du tapis bleu, de l'arrivée et de l'émotion et tout ça. Pour le moment, j'ai jamais ressenti cette émotion parce que j'avais tellement peur que mes jambes me lâchent et
concentré jusqu'au bout, quoi.
Ouais, que j'aille pas jusqu'au bout. C'était plus un soulagement dans le sens où c'est bon, ils ont tenu, mais pas le chrono. C'est après que je réalise. Mais sur le coup, non, je suis juste contente d'avoir tenu jusqu'au bout.
Alors, enfin fini, ça y est, on va pouvoir passer au repas, quoi.
Franchement, c'est dur. Moi, je trouve que j'ai trouvé ça dur. Et du coup, j'aimerais bien cette année plus profiter de ce fameux tapis bleu.
Ouais. Clément, toi, je vais te poser aussi un peu la même question finalement sur ce projet Paris. Enfin, non, Paris 2024, c'est déjà passé, mais Los Angeles 2028. À quel point Valence, justement, c'est une étape dans cette prépa-là ?
Alors là, on va courir Valence en 2025 et dans deux ans, 2027, c'est là où il faut faire le chrono pour se qualifier à Los Angeles qui sera au mois d'août 2028. Donc on va dire qu'il nous reste trois marathons. Celui-là qui est une étape importante pour voir ce qu'on peut courir en 2026 et 2027. Et ce sera en 2027 qu'il faudra courir le plus vite possible.
Il faut prendre ses repères finalement.
Ouais, c'est ça. Prendre ses repères et essayer de grappiller des minutes au fur et à mesure pour en 2027 être proche ou faire les minima. Et après, il y aura les trois premiers français qui est pour moi le plus difficile. En fait, être dans les trois premiers sera plus difficile que faire les minima. Mais il faut déjà avoir la marge de progression pour faire les minima en 2027.
Oui, parce que tu le disais, courir en moins de 2h10 cette année à Valence, c'est un vrai objectif. Mais il y a aussi cette densité, mais tout comme Salomé au niveau des féminines, il y a une densité maintenant sur marathon qui est quand même assez incroyable. Faire moins de 2h10, bah, je ne sais plus combien de Français l'ont fait déjà, mais il y en a un paquet, il y en a plus que 3 en tout cas, ça c'est sûr.
Je pense qu'il doit y avoir 7 ou 8 peut-être l'année des Jeux qui ont fait moins de 2h10.
C'est quand même incroyable.
Et ouais, c'est une densité énorme. Il faut savoir que je pense que dans les 15 meilleurs Français tout temps, il y en a 12 ou 13 qui ont couru il y en a 12 ou 13 qui l'ont fait en 2024 ou 2025. Donc c'est aussi les plaques carbone qui font qu'on peut s'entraîner plus, récupérer plus vite et donc progresser et aussi courir plus vite sur le marathon. Mais il y a aussi l'engouement qui fait que il y a telle personne qui court 2-6, 2-7. En fait, c'est réalisable. Donc, je vais essayer de partir sur la base de 2-6, 2-7 sur le marathon. Et ça passe pour certains. C'est ce qui s'est passé en 2024. Et l'engouement est très positif. Hein, ça tire chacun vers le haut. Et aussi bien en demi-fond court qu'en demi-fond long au marathon, chez les hommes et chez les femmes, il y a un gros niveau en France en 2025. Donc, ça tire tout le monde vers le haut. Et c'est une bonne chose.
Ouais, vous avez vu une vraie différence, vous, tu parlais des plaques carbone, vous avez vu une vraie différence sur la montée du niveau finalement en France grâce à ça ?
Oui, je pense, moi, c'est que c'est lié au kilométrage. En fait, on peut faire beaucoup plus de kilomètres, des séances plus intenses et récupérer plus vite et enchaîner plus vite. Donc progresser grâce à l'entraînement, encore plus que le chrono en lui-même sur la course, je pense.
Salomé, toi pareil, ouais, il y a eu un vrai...
Après moi, quand j'ai commencé directement avec les plaques carbone.
Oh
du
non,
coup...
oh la tricheuse, oh non, Salomé non.
Du coup, j'ai moins de recul qu'avec Clément.
Ok, mais oui, donc t'as commencé direct avec les plaques carbone et toi aussi tu vois que c'est peut-être pas lié à la performance, mais en tout cas dans la récupération musculaire, peut-être que ça aide beaucoup,
oui.
Ouais.
Franchement, on est capable d'enchaîner trois entraînements vraiment intensifs dans le week-end sans vraiment avoir mal dans les mollets, avoir les mollets chargés.
Mais ça, il va falloir le dire à nos auditeurs d'RMC Running. Je crois qu'on en a un qui attend là pour en parler. Alors, en plus, il a la médaille. C'est quoi ton prénom ? Tiens, prends le micro, vas-y. Quel est ton prénom ?
Moi, c'est Thomas, du coup.
Thomas ?
Ouais.
Et Thomas est avec ?
Raphaël.
Raphaël. Bon, vous avez des petites questions à poser à nos athlètes ça... Juste pour vous poser le décor, ça court 2h12 sur marathon et 2h30, voilà.
Ah ouais, ok, impressionnant. Et ça fait quoi là pour aujourd'hui du coup ?
Eh bah ouais, c'était 10 km pour vous aussi. Hein.
C'est 10 km aussi. T'as fait quoi ?
J'ai fait 3,26 de moyenne sur le 10 km au kilo, donc 34,20 je crois à peu près.
Ouais.
Et 36 je crois.
36, bon, Salomé qui gagne haut la main ce
ah
petit
ouais,
10
km.
et puis Clément qui prépare aussi le marathon de Valence là, qui a couru 90% allure marathon, c'est ça ?
Ouais, c'était la consigne du jour.
Voilà, consigne du jour, 90% allure marathon, c'est du 3,26 au kilomètre. Bon,
impressionnant.
Non, comment s'est passé ton 10 km
Moi ça s'est plutôt bien passé. J'avais un objectif de faire un sub 45. J'ai fait 43, donc plutôt content. Il y a un moment où vers le 6 km c'était compliqué, mais j'ai un pote qui m'a rejoint pour un peu me pacer. Donc là, ça m'a vraiment mis un coup de boost. Donc c'était vraiment. Ouais, il m'a bien aidé.
Bravo.
Moi, c'est ça, RMC Running aussi, c'est de mélanger les athlètes professionnels et les athlètes amateurs. 43 minutes, c'est beau pour un 10 km.
Ouais,
franchement,
le premier
t'es
content en plus, j'étais
content. Le premier 10 km
ouais, le premier en compète.
Est-ce que vous vous souvenez, vous deux, de votre premier 10 km, tiens ?
Oui.
Bon. Et alors, ça donnait quoi?
Je crois que j'avais fait 39.
39,09, t'as
fait, je crois. Ouais, 39,09.
Moi, j'avais fait 34,12, je crois, en junior 1, je crois.
Et est-ce qu'on a ce même sentiment de fierté, voilà, de faire un 10 km en course pour la première fois?
Bah oui, déjà, un 10 km, franchement, ça nous paraît interminable.
Ouais, toi, c'était au 6ème kilomètre ou c'était un peu dur?
Ouais, c'était un peu dur, ouais.
Est-ce que t'as couru, toi?
Ouais, aussi.
Et alors, ça donnait quoi?
Moi, j'ai fait 37. Ok. Donc, c'était une course de reprise là, formidable.
Là, on est un athlète de haut niveau.
Non, en fait. Normalement, je suis plutôt un trail, c'est pour ça.
Ok.
Donc là, c'était une course et j'avais des copains qui m'ont dit viens faire cette course, alors je suis venu là. et voilà.
Et alors, courir pour la bonne cause aussi
Ouais, c'est ça. Voilà, en plus, c'est une course très sympa, le parcours est très cool dans le bois.
Ouais.
Non, ça fait plaisir.
Bon, trail, mais je sais pas si. Est-ce que des fois vous avez des questions potentiellement pour à poser à nos athlètes, je sais pas, sur n'importe quel sujet, sur le running? Non, ça se passe bien pour vous?
Bah, justement, est-ce que vous sortez un peu de la route parfois ou vous restez vraiment focalisé sur des allures route ou vous permettez de partir sur un peu plus trail ailleurs ou...
Est-ce que vous faites du trail, tiens, dans une préparation marathon?
Non, on fait pas du trail, mais par contre, on fait pas mal. Par contre, sur les récup, les footings de récup et tout. Et puis là, on a la chance, nous, d'habiter juste à côté de Bois de Vincennes. Et du coup, on s'amuse vraiment, on rentre vraiment dans le bois pour avoir du terrain un peu plus souple. Et sinon, bah, on est des crossman.
Ouais,
non, man.
Ouais, un petit peu de cross. Un hiver.
Oui. Du coup, c'est sympa à tout.
Il faut savoir que normalement, quand on est marathonien, s'il y a un petit pont, c'est le max du D+ qu'on peut avoir. Surtout à Valence, qui est quand même tout plat. Hein, bah, c'est réputé pour être vraiment très roulant.
Ouais, c'est vrai. Oui, c'est
il y a combien de D+ d'ailleurs à Valence? On sait ça.
Je pense autour de 100 ou moins de 100.
Ouais,
moins,
pense.
De 100
moins de 100.
Ouais, moins de 100 sur un marathon, on est quand même sur quelque chose d'assez plat.
Clément, il adore les côtes et le trail surtout.
On va souvent à Font-Romeu pour s'entraîner et Salomé vole dans les côtes.
Ouais,
c'est très facile pour elle. Et moi, j'ai beaucoup de mal.
Mais il n'y aura pas de carrière du ultra-trailer après le marathon, alors Clément.
On ne sait jamais, mais ce n'est pas mes qualités.
Mais pourquoi pas? Non, bah, en tout cas, c'était vraiment très agréable de vous recevoir au micro d'RMC Running.
Bah, merci,
on vous souhaite.
Mais bravo.
Bravo à vous les gars et puis Clément, Salomé, on vous souhaite évidemment tout le meilleur pour Valence.
Merci beaucoup.
Somme de 30 à somme de 10 et vous reviendrez nous raconter ça.
Avec grand plaisir.
Avec plaisir.
Bon, allez, je vais juste faire mon petit mot de la fin. Merci infiniment à Marie-Josée Pérec d'avoir été avec nous. Merci à Benoît Durand pour ce témoignage aussi sur cette maladie d'Alzheimer qui touche, on le rappelle, environ 900 000 personnes en France. Alors si vous voulez faire un don, n'hésitez pas, ça se passe sur www.francealzheimer.org. Et puis encore une fois, merci à vous les champions. On a reçu Sarah, on reçoit Salomé, on a reçu Thaïs, on a reçu Clément. RMC Running vous souhaite donc le meilleur pour la suite. Et ce conseil de fin pour terminer toujours le podcast, bon, quelque peu changé pour ce podcast délocalisé. Sortez vos baskets, mettez-vous à la course à pied, ça aide à rester en bonne santé. Merci à lui à tous.
RMC Running.